écoutez Canal FM 93.5.
Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Vous savez que le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio. Nous y sommes et merci surtout pour votre fidélité sans cesse renouvelée. La 23e réunion du CPC s'est déroulée tout récemment à Lomé. Au menu des échanges, 5 points majeurs. Le bilan du processus électoral des municipales du 17 juillet dernier, la présidence du CPC, la situation socio-économique, les perspectives et les divers, mais c'est surtout la réflexion sur l'avenir du cadre de concertation qui a retenu l'attention tant il est devenu un espace central dans la gestion des tensions politiques togolaises depuis sa création. À l'issue des travaux, plusieurs consensus ont été actés. On retient l'invitation à tous les partis politiques, y compris ceux qui boudent les discussions, à participer à la gouvernance locale et la mise en place d'un mécanisme d'amélioration de l'organisation des élections afin d'en renforcer la transparence et la crédibilité. Un appel aux partis pour qu'ils assurent leur rôle d'éducation civique et de sensibilisation des militants à l'esprit citoyen et un plaidoyer pour garantir la représentation des partis minoritaires dans les futurs organes exécutifs des conseillers et des conseils municipaux, nous rapporte Togo Breaking News. Nous allons aborder le sujet au Club de la Presse puisque, bien sûr, ça nous intéresse, ça fait l'actualité, nous allons l'aborder et nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité telle qu'évoquée par des journaux parus aujourd'hui et bien sûr dans cette émission Club de la Presse de ce mercredi 10 septembre 2025. Bienvenue au Club. Merci à vous tous qui nous suivez partout au Togo, grâce justement à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM, nous sommes à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou, et puis Radio Courtoisie à Dapan. Et là vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Club de la Presse, la coordination technique est assurée ce matin par Thomas Etekossi d'Atevi et la mise en ligne est assurée par Jérôme Akoucha. Je suis Pascal Losso au micro. Vous pouvez nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook, sans oublier notre site internet www.canalfm.com et aussi nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. De la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain, aussi du monde entier. Et c'est avec mes confrères journalistes en studio, avec moi, l'équipe de mercredi se met déjà en place. Sylvestre Béni, bonjour.
Oui, bonjour cher ami et bonjour à toutes et à tous.
J'espère que vous allez bien.
Non, je vais très bien, Pascal, et aussi avec une petite pluie. Vous comprendrez, quand je vous parle donc de bénédiction, vous comprendrez mieux les choses. Donc voilà.
Mais quand vous dites petite pluie, sous d'autres cieux, ou du moins dans d'autres localités, on vous dira quand même que ça n'a pas été petite cette pluie.
Oui, ça dépend. Ça dépend. Lorsque vous vous situez peut-être ici à Hanukopé, c'est une petite pluie. Mais Gadiel qui a peut-être traversé la ville en venant donc de l'autre côté vers de Zangera ici, Compan aussi. Même ceux qui ont quitté, même Toti. Pour venir aussi, vous parlerons donc de fines pluies, Donc là, ça dépend, mais
en réalité... Chacun apprécie...
Oui, même si vous venez de CB ou de Lancouver, vous comprendez. Donc voilà, ouais, plus c'est plus. Donc il y a eu quand même une plus sur la...
L'essentiel est que c'est plus.
Et que ça a permis donc de calmer les ardeurs, de permettre de réfléchir un peu plus.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi.
Oui, Abassi Issaka, bonjour.
Bonjour Pascal.
C'est toujours commandant?
Oui, le commandant...
Ça n'a pas changé, hein?
Un chêne en or.
Peut-être après la formation du gouvernement, il peut monter en grade. Qui sait.
Voilà, on attend.
Ça, ah bon, vous êtes sûr?
Oh, hein? C'est comme ça, il faut espérer.
Ah, ok, vous êtes dans l'espoir.
Qui vit l'espoir?
Le gouvernement va garder un peu arriver, donc il va un peu durer sur son grade.
Je dure sur mon grade d'abord en attendant.
Mais puisque vous avez tellement duré sur votre grade, il est important. Il est au moins important quand même que vous changez de grade.
Il y a des gens qui ont fait 15 ans de service sans grade, avec Bangbana.
Ah, 15 ans moi, de service sans grade.
Moi, j'ai évolué jusqu'au commandant. Il faut au moins féliciter.
Il va partir même avec le commandant.
Moi, si je parle là,
votre avis de tous les temps.
Les gens sont jaloux de mes acquis, c'est tout. Donc, même si je pars avec commandant, c'est que j'ai eu un grade commandant.
Vous avez servi la République.
J'ai servi la République.
C'est l'essentiel.
Je suis pas avec la personne. Je ne suis pas resté Bangbana.
Oh, mais nous, notre prière, c'est que vous. Franchissez le pas.
Non, je vais franchir.
Depuis quand tu as porté des trilles,
hein? C'est encore un autre jaloux, ça. Je dis depuis quand. Est-ce qu'il faut porter des trilles d'abord? Un jaloux de nos acquis.
Un autre jaloux qui s'invite dans
il,
le débat.
Il s'est invité.
Qui se déclare.
Bonjour, je suis Anani.
Pascal, bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Mais Dieu merci, on rend grâce. La respiration hier.
C'est l'essentiel.
Je viens de rentrer de l'intérieur du pays. J'avoue sincèrement que la situation n'est pas rose. La précarité, la famine, la faim que traversent les populations doit quand même interpeller plus au niveau les dirigeants. Mais à cela s'ajoute également de ce qui se déroule en ce moment dans ce que je peux appeler la campagne pour la rentrée scolaire. C'est vrai, si les décideurs font leur part au niveau des ménages, c'est la croix et la bannière. C'est ce qui m'amène encore ce matin à parler de nos grands frères, nos papas qui ont travaillé à la Togolaise des eaux, TDE, et qui sont partis à la retraite, qui doivent bénéficier de la retraite complémentaire. Et depuis lors, on traîne à les payer. Ceux-là qui sont partis récemment, lorsqu'on a abordé, qu'on a commencé par aborder ce sujet dans cette émission, on a commencé par poser des actes comme si tout le monde sera quand même rentré dans ses droits. D'un seul coup, ça a été coupé. Nous sommes revenus sur le sujet et je crois que c'est le chargé de communication dans cette boîte qui a appelé un des confrères, comme quoi ils ont des éléments à apporter par rapport à tout ce qui se dit. Mais depuis lors, le rendez-vous est avorté, on ne sait pas le pourquoi. Je t'en avais également parlé et nous sommes dit que le moment venu, on doit quand même avoir un certain nombre d'informations plus amples, parce que ceux-là qui sont partis à la retraite, je l'ai dit ici, beaucoup souffrent de plusieurs pathologies, ils sont malades. Et à cela s'ajoute la situation actuelle de crise économique. Et leurs petits-fils sont également, pour certains, à leur charge. À cette rentrée, comment faire maintenant pour pouvoir les aider? Donc moi, ça me peine sincèrement quand j'aborde ce sujet. Mais je ne sais pas le pourquoi. Le directeur du conseil, enfin, le président du conseil d'administration au niveau de la TDE et le directeur général, M. Gbati, si je me trompe, s'obstinent véritablement à poser les bases pour payer tout ce monde-là. Moi, ça me peine. Donc, nous sommes là et chaque jour que Dieu fait, je vais revenir sur le même sujet pour interpeller même le sommet de l'État, notamment si ça ne marche pas au niveau de la TDE, parce que ce problème ne se pose pas au niveau de dans plusieurs sociétés, notamment quand vous parlez de la société, le problème ne se pose pas. Ceux qui partent à la retraite, très rapidement, ils bénéficient de leur retraite complémentaire au niveau du port, au niveau des autres sociétés d'État. Mais pourquoi au niveau de la TDE, ça traîne, je n'arrive pas à comprendre. Donc, j'interpelle les premiers responsables du pays à s'inverser dans ce dossier-là.
D'accord.
Pour que très rapidement les ayants droit puissent
et toucher le fond.
Merci d'avoir accepté notre invitation, Justin Anani. Justin Anani, je rappelle que vous collaborez avec beaucoup de médias, presse écrite et aussi des radios. La rentrée, c'est dans quelques jours, mais avant d'aborder la rentrée, il faudrait quand même que nos élèves soient en bonne santé. Et là, nous allons parler santé et éducation avec Gadiel Tsonandi. Gadiel, bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Ça va.
D'accord. Ce matin, c'est vrai, vous vous intéressez justement à des sujets qui nous intéressent et qui aussi doivent nous donner la bonne santé. Et, vous parlez alors de vérifier la glycémie à jeun et vous posez la question pourquoi ?
Oui, parce que permettez-moi, j'aimerais quand même faire une petite introduction qui n'a pas trait au sujet, en tout cas de la chronique que vous venez de donner. J'aimerais parler un peu de la circulation sur la route de Palimé. Dans ces derniers temps-ci, avec tous les accidents, c'est vraiment, ça fait peur. Hein. Ce matin encore, une moto, je crois, trois voitures. Hein. Je ne sais pas si ça s'est passé hier, nuit, bien très tôt ce matin. Vous savez, sur cette route qui a été faite, on a l'impression que nous roulons sans savoir qu'il y a aussi d'autres qui roulent. Est-ce que vous voyez? Des gens roulent, on croirait qu'ils n'ont pas de frein sur au niveau de leur engin. Des gens roulent, quand vous êtes sur la route principale, ceux qui sortent des petits coins, ils ont l'impression de vous dire de vous arrêter. Eux, ils doivent passer d'abord. Donc, c'est toute une cacophonie qui se passe sur cette route-là. Et avec des accidents, ce n'est pas possible. Donc, nous lançons comme ça un cri à l'endroit de, c'est pas c'est la municipalité, c'est pas des autorités pour que on revoie cette situation. Et puis un appel à tous les usagers. Hein. La vitesse n'est pas un signe de grandeur sur la route. Des fois, il y a des gens qui roulent, vous allez imaginer où est-ce qu'ils vont exactement en roulant ainsi. Et ce qui fait que quand un accident arrive, ça fait un drame. Ça fait un drame. Le second point, c'est cette route-là de Badago, avec plusieurs gros trous. Quand vous roulez sur cette route, vous avez peur.
C'est-à-dire la voie qui passe devant Radio Canal FM pour aller à Badago.
À Badago. Il y a trop de trous. Ça, c'est.
Et des gros
c'est
trous,
des fosses, hein. C'est des fosses même, quoi. Ce ne sont plus des. C'est des fosses. C'est très dangereux de rouler sur cette route-là. Hein. Donc, aussi, un appel aux autorités par rapport à cela. Maintenant, par rapport au sujet, vous parlez de faire le prendre la glycémie à jeun. Pourquoi? C'est absolument important, surtout pour ceux chez qui on a découvert qu'ils sont pré-diabétiques ou bien qu'ils sont diabétiques, hein, Pascal. La prise de la glycémie, c'est très important. C'est un acte qu'on peut appeler, qu'on peut loger sur la liste des actes thérapeutiques de soins. Parce que si vous ne prenez pas votre glycémie, vous ne saurez pas où est-ce que vous en êtes. Et vous pouvez faire une crise, et ce serait vraiment dommage. Donc, ceux qui sont détectés pré-diabétiques, ceux qui sont des diabétiques, prendre la glycémie à jeun. Hein, d'une manière régulière, les soignants vont leur donner à chacun sa périodicité. Vous devez faire ça, je sais pas, deux fois dans la semaine, mais une fois par mois. Ils savent bien donner ça à chacun selon son cas, mais il faut le faire parce que c'est très important. C'est ça qui démontre que vous êtes sous traitement, ça marche, mais ça ne marche pas. Ou bien votre alimentation, vous devez la réguler. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des drames qui se passent au niveau de ces personnes. La prise de la glycémie à jeun, c'est très important. C'est un acte de vie qu'on doit faire pour les pré-diabétiques et les diabétiques. Et puis pour tout le monde, hein, si vous savez, il y a des gens aujourd'hui, ils ne connaissent pas leur glycémie. Quand vous leur demandez, est-ce qu'ils connaissent leur glycémie, ils disent, ils n'ont jamais pris leur glycémie. Or, il y a beaucoup de campagnes quand même qui se passent dans le pays, des fois même des campagnes gratuite de prise de glycémie, dont les gens peuvent aller prendre leur glycémie, savoir quel est le taux de sucre dans mon sang? Est-ce que c'est normal? Si ce n'est pas normal, aller rapidement à une prise en charge pour éviter un drame sur, en tout cas sur la santé, sur la vie.
Et donc la prise à l'heure de glycémie, c'est très important. Absolument. Et un acte qui est même à recommander hein, aux uns aux autres, c'est important. Oui. D'accord. Alors, vous parlez aussi alors de 5 infusions contre stress et dépression. Là, vous vous intéressez justement au stress et à la dépression. Et, quelles sont ces 5 infusions, Gadiel?
Oui, parce que vous savez, cette parution à 70% elle est consacrée aux maladies mentales. Hein, vous savez, aujourd'hui, partout en Afrique, dans le monde, les maladies mentales montent. Hein. Chez nous, à part les maladies infectieuses derrière lesquelles on court, on n'est pas encore arrivé à résoudre le problème. Les maladies non transmissibles sont là. Hein. On est envahi par ces maladies non transmissibles. Maintenant, c'est les maladies mentales. Le stress, la dépression et tout. Vous voyez, tout
le temps. Mais là, on a le droit de savoir quelle en est justement la cause.
Mais c'est les difficultés de la vie. C'est les facteurs les plus poignants. Hein. Les difficultés de la vie, les défis à relever. Quand vous avez tout un tas de défis à relever, des difficultés, vous n'avez pas assez de moyens pour faire face à cela. Donc, ça plonge des gens dans un état de santé mentale assez avancé. Et d'après les études, je pense au niveau même de l'enquête STEP 2021, il y a une donnée qui est ressortie, 3,1% de Togolais sont dépressifs. C'est trop beaucoup d'ailleurs pour une population de moins de 9 millions. Donc c'est un cas réel aujourd'hui. Le stress, un débordement quotidien par rapport à la vie, que ce soit à la maison comme la vie professionnelle. Les défis professionnels qui s'opposent à nous, quand on n'arrive pas à contenir, on est stressé. La dépression, ce dégoût de la vie, hein, après avoir accumulé beaucoup de choses, de difficultés, des défis non résolus, hein, des déceptions, des événements malheureux dans la vie. Si on ne se soigne pas, on arrive à la dépression. Attention, la dépression peut conduire droit au suicide. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Quand on est stressé, on est dépressif, il y a des signes. On est fatigué. On ne dort pas bien. On a des troubles au niveau alimentaire. Certains mangent trop. Finalement, la personne se sent qu'elle mange trop. Ou bien, on mange trop peu. Ou bien, on ne mange pas du tout. Ou bien, ben voilà, on a des troubles au niveau cardiovasculaire. Vous levez aujourd'hui, vous avez une température qui peut monter, et quand je dis une tension qui peut monter, la glycémie peut monter, donc des troubles cardiovasculaires et tout cela, attention, il faut aller consulter. Le stress et la dépression agissent négativement sur la santé, mais on sait que aujourd'hui tout le monde doit le savoir, on ne cessera jamais de le répéter. L'alimentation est la base de tout traitement. Dans cet article, 5 infusions. Hein, pour aider ceux qui sont stressés et dépressifs, c'est bien prouvé et des infusions à faire facilement à la maison. Donc, un article important qu'on recommande à nous tous.
Justement, Gadiel, la bonne nouvelle, c'est que la dépression se soigne. Et là, justement, nous qui vous écoutons actuellement, nous devons nous réjouir de cela parce que, allez, vous avez aussi les astuces pour nous amener justement à nous soigner de cela.
Absolument. Vous savez, quand on est dépressif, on vient de le dire, c'est qu'on n'a plus goût à rien. Et quand on a des gens dans ton entourage comme ça, attention, comment on le dit, le titre le dit, la dépression, ça se soigne. Il y a des soins médicamenteux, il y a des prises en charge d'autres stratégies et tout pour ramener la personne. Hein. Mais beaucoup ne le savent pas. Après, c'est que des fois, même quand on est dépressif, on ne le sait même pas. La personne même ne le sait pas. Ceux qui sont autour de vous ne le savent pas. Et c'est ça qui conduit au drame. Parce que lorsqu'on perd la personne, on ne le sait pas. Hein. La personne, elle est dépressive et elle commence par avoir des idées suicidaires. On ne le sait pas. Et si autour, il n'y a pas des gens qui connaissent un certain nombre de signes, ça peut arriver au drame. C'est sûr pourquoi aujourd'hui, je pense qu'il faut beaucoup parler de l'espoir. Hein, de l'espoir autour de nous, de parler de plus des choses qui font, qui donnent la joie. On sait que aujourd'hui l'actualité sur le plan national et international, ce n'est pas gai. Donc cela aussi accentue la dépression au niveau.
C'est-à-dire en suivant l'actualité, c'est ça.
Oui, vous savez, vous suivez l'actualité, vous êtes dépressif. Ça peut aggraver votre dépression. On est, des fois, quand vous écoutez les informations, votre stress monte. Hein? Vous êtes dépressif, vous êtes triste, vous êtes anxieux. On se dit, mais qu'est-ce que demain sera fait? Hein? Est-ce que vous voyez? Donc, tout cela agit sur la santé et la dépression se soigne. Aujourd'hui, on a des psychologues, on a des psychiatres et tout et tout. Et il y a des prises en charge médicamenteuses. Tout ça, là, ça existe. Donc, si on reconnaît que dans nos maisons, dans notre entourage, il y a des gens qui commencent par se dire, bon, ok, ben, ça ne vaut plus rien la vie. La personne, on la connaissait très active, mais elle n'a plus goût à rien. Il faut conduire cette personne au CHU, dans les CHU. Demander où est-ce qu'on peut, comme ça, de fil en aiguille, on peut trouver un spécialiste pour la prise en charge. C'est très important. La dépression, ça se soigne. Cet article, on le recommande à nous tous.
Justement, un article que vous recommandez à nous tous. Mais vous vous intéressez aussi à une cible ou à une couche donnée, c'est les adolescents, et par rapport à cette question alors de dépression. Vous écrivez adolescents et idées suicidaires, signe d'alerte.
Absolument. Vous savez, Pascal, les jeunes aussi se suicident. Et c'est ça le drame. Hein? La dernière fois, paraît-il qu'au niveau de Gomé, un mineur s'est suicidé. Qu'est-ce qui peut conduire à cela? C'est ça le problème. Souvent, on dit que c'est des adultes, des gens qui sont accablés par les difficultés de la vie. Mais quand c'est un enfant, un mineur, qui se suicide, qu'est-ce qui peut être à la base?
C'est un enfant au niveau de Yorkway.
Voilà. Ah. Qu'est-ce qui peut être à la base? Est-ce que vous voyez? Donc, c'est que, vous savez, la vie actuelle, hein, cela a toute une pression sur tout le monde, et les adultes, et les enfants, et les personnes, j'allais dire, tout le monde est stressé, dépressif, anxieux, tout le monde a peur, on est triste, donc tout cela, donc ça agit sur certaines personnes, et il y a des gens qui n'ont pas le courage, à un moment donné, quand autour d'eux, on ne détecte pas cela, on ne les accompagne pas, ils peuvent aller au drame. Donc, chez les enfants, chez nos enfants, il faut voir, par exemple, un enfant qui étant très actif, aujourd'hui veut être seul. On va commencer bientôt l'école. Ses résultats scolaires ne sont pas ceux-là. Il dit qu'il ne dort pas bien et tout et tout. Il faut voir quel est son problème. Vous savez, dans certaines familles, quand les parents n'ont pas une bonne ambiance à la maison, cela peut agir sur les enfants.
Mais souvent, c'est comme ça.
Absolument. Donc, des difficultés au niveau de la famille, entre les parents, ça peut amener un enfant à aller vers le drame. Donc, tout cet environnement peut amener un mineur à aller vers le drame. Donc, c'est très important. Dans cet article, c'est qu'on ressort certains signes qu'on doit détecter chez nos enfants, chez les jeunes, chez ces mineurs, pour les récupérer très rapidement. C'est juste pourquoi avant, en Afrique, dans le temps, il y a certains problèmes dans la communauté. On n'aimait pas que les enfants apprennent cela. Est-ce vrai? On mettait des enfants à côté. On disait, bon, ça là, ça ne vous concerne pas, vous n'êtes pas encore adulte pour comprendre ce genre de choses. Aujourd'hui, avec Internet, avec tout, tout est
exposé.
Donc les enfants sont au courant de tout. Et si à la maison aussi, il n'y a pas une ambiance qui puisse encourager, ça peut aller au drame. Et puis aussi, les amitiés, il y a des gens. J'ai une fois écouté un enfant qui a perdu son camarade qui est décédé. Ça a été une grande pression sur lui. On a fini par le récupérer. Mais il y en a d'autres, c'est une relation amoureuse qui cesse. Et ça peut aussi conduire cet enfant à vouloir se suicider. Donc, tout cela, les parents, c'est vrai qu'il y a des défis dans la vie, mais suivons nos parents. Essayons à un moment donné d'appeler nos parents, nos enfants et de se distraire, de voir quel problème tu as et de voir comment on peut aider les enfants. C'est très important.
C'est très important. Et ce
sont article des articles que nous recommandons.
Justement. Voilà. Et ce sont des articles que vous recommandez à nous tous. Et là, Gazelle, pour avoir le journal Santé Éducation paru aujourd'hui, quelles sont les conditions?
Dans les kiosques en pharmacie, mais nous recommandons surtout le journal numérique que tout le monde peut avoir partout où il est, sur le site www.santé-education.tg à 500 francs.
À 500 francs. Alors, ça ne serait pas aussi redondant si vous donniez encore le numéro de, des gens, quand même, enfin, votre numéro par rapport à ma baisse, hein, pour que des gens, des partenaires, des gens qui vous écoutent puissent vous apporter alors des contributions pour le bon déroulement alors de ce marché.
Ok. 91 93 25 45. 90 05 09 89.
D'accord, le message est passé. Merci, merci beaucoup, Gadiel Sonia Dzi. Merci d'être passé. Vous passez une bonne journée. Oui, Justin, c'est vrai que Gadiel parlait tout de suite alors de dépression et de stress. Je ne sais pas si depuis un temps, avec les éperviers du Togo, quand on suit les maths alors de, des éperviers, on a ce stress ou cette dépression pour quand on suit les 90 minutes. Et avec la Mauritanie, tout récemment, on l'a vu. Hier également avec le Soudan, mais Dieu merci, on en est sorti avec un but à zéro en notre faveur.
C'était bien pour le moral.
Ça ne nous donne pas du stress.
Oui, après en suivant même le match, on est trop stressé. Je t'avais dit hier que, bon, après mon déplacement, je suis rentré, l'émission, bon, je me suis dit, je suis un peu fatigué. Je ne peux plus faire un travail intellectuel en ce moment-là, j'aimerais me décaisser un peu. Je me suis rendu au stade. Mais la première observation tout de suite, depuis que je suis né, je suis dans les cinquantaines bien sûr, je ne me suis jamais rendu au stade et voir un tel dispositif de sécurité. Je me suis posé beaucoup de questions. Déjà à quelques 600 mètres même du stade de Kégué, on voit des dispositifs, des hommes en uniforme, des policiers pas ici, des gendarmes pas là, des militaires pas là. Des contrôles pas possibles, comment est-ce qu'on peut les appeler, ces gens-là, avec des gabarits, ils ont une appellation là, ils ont un nom.
Quoi, les gros bras.
Les gros bras, voilà, merci. Ils sont un peu partout. Mais je me suis posé beaucoup de questions avant de se rendre au stade. Heureusement que nous avons échangé dès avant mon départ au studio, donc j'ai eu une idée sur ce qui se passait. Donc nous sommes rendus au stade, avec tellement de contrôles, de fouilles, pas possible.
Mais qu'est-ce qui explique cela?
Je n'arrive pas à comprendre, parce que dans la foulée, il paraît qu'il y a une manifestation qui est annoncée à la fin du match. Ou bien avant la... Bien avant
la... Une manifestation annoncée par qui?
Et mais il se substitue beaucoup de choses, que c'est M66 qui a appelé les jeunes à se rendre au stade, et qu'au cours du match, il va y avoir de manifestations, je ne sais pas trop, puisque... Je n'étais pas au pays, je n'ai pas eu le temps non plus de se connecter sur les réseaux pour voir ce qui se passait. Mais comme vous parlez de stress, nous sommes rendus quand même au stade. Très rapidement, le Togo a marqué un but. Maintenant, sur le déroulé même du match, bon, on a encore vu un autre fond de ce match posé par le sélectionneur Mohamed Daré, ce qui n'est pas mauvais, avec le déroulé... avec des distributions de balles tellement appréciées, surtout en première mi-temps. Le Togo a eu des occasions pas mal qui n'a pas eu la chance
de concrétiser.
Et après la mi-temps, donc le changement a été opéré dans le camp des Soudanais. Et très rapidement, la deuxième mi-temps a été très difficile. C'est là où je reviens également sur votre question pour parler de la dépression, de stress. Parce qu'on se posait de questions, on se dit mais... Qu'est-ce qui va encore se passer aujourd'hui? Est-ce que les Soudanais là, vont encore égaliser et puis nous battre encore à domicile? Chacun tenait pratiquement son cœur dans la main. Bon, jusqu'à ce que vers la fin du match, le Togo a encore repris le match avec quelques changements à opérer et que, bon, des occasions ratées ici, là, et surtout vers la fin du match. Et un but sur plateau d'or qui devait être déposé dans les filets, mais malheureusement qui a passé à côté. Bon, c'est sur ce coup-là que l'arbitre central a mis fin à la rencontre. Mais tout au long du match, il faut quand même dire que quand vous allez sur le match du Togo, ces derniers moments, et que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, il faut toujours être prêt pour aller au-delà de ce qu'on peut appeler le stress et la dépression. et avoir le cœur de suivre le match du début jusqu'à la fin. Mais tout compte fait, bon, le sélectionneur Nimobe Daré a posé une base qui, ma foi, a marché. Le Togo a gagné. Et c'est pourquoi d'entrée, je disais tout à l'heure que c'était vraiment bon pour le moral. Mais sauf que le Togo a gagné, mais n'a pas tellement engrangé aussi de points pour espérer être qualifié après. Mais de l'autre côté, on a vu également ce qui s'est passé au niveau de Congo-Kinshasa, où mené à 1-0, les Sénégalais ont renversé la vapeur et finalement ils ont gagné 3-0. Donc c'était vraiment la débandade au niveau de 3-2, autant pour moi, c'était vraiment la débandade au niveau du stade. Les gens se sont fâchés, ils ont cassé des sièges. Et au point même que l'information que je venais d'avoir ce matin, la CAF a interpellé la Fédération congolaise de football sur la question. Et également, si peut-être on peut ouvrir encore d'autres paramètres, c'est au niveau du Cameroun, où le président de la Fédération, Samuel Tour, n'est pas du tout d'accord avec les siens par rapport à tout ce qui est mis dans la danse, dans la balance, pour qu'il puisse quand même jouer, mouiller le maillot. Mais les résultats n'arrivent pas à s'en suivre et ça pose véritablement de questions. Donc je conclue en disant que bravo aux sélectionneurs du Togo, bravo aux joueurs, mais progressivement le Togo est en train de mettre sur pied une équipe et on doit quand même espérer que les résultats vont suivre. Et surtout qu'il faut corriger tout ce qui constitue aujourd'hui les mots qui minent cette fédération et la volonté politique également des décideurs pour dire qu'on doit quand même avoir une politique, on doit quand même soutenir, on doit quand même aider et appeler à l'unisson pour la réussite. Et je finis par conclure que au-delà de tout, les Togolais aiment le football, les Togolais aiment leur équipe, mais au stade hier, ça a été scandé également, j'ai cru attendre dans un groupe que nous voulons le changement. Je n'ai pas encore compris ça, mais peut-être lorsqu'on va rentrer dans le débat politique, tout à l'heure, on va en parler.
D'accord. Oui, c'est vrai que Justin le disait, que pas à pas, le Togo est en train de mettre en place une équipe, mais est-ce que nous sommes encore à cette étape?
Oh, on a cette étape parce que on dit reconstruction. Depuis que Paulo Duarte est venu pour prendre l'équipe, on parlait de reconstruction. Paulo Duarte a fait 2 ans, il est parti alors qu'il était en train de construire cette équipe qui prenait. Cette équipe la prenait, celle qu'il était en train de faire. Parce qu'en ce moment, les joueurs qui revenaient, qu'on appelait, qu'on convoquait, on commençait par les connaître un peu. Mais Nibombe Daré est arrivé aussi. Il dit qu'il a son système de jeu et c'est avec des joueurs, ceux-là, qui peuvent faire son système de jeu qu'il a amené. Donc, qui a été commencé comme construction, la fondation qui a été mise en place, construite, a été cassée et Nibombe Daré a recommencé encore par des convocations. Nous avons aujourd'hui sur 9 matchs que le Bombay Daré a eu à jouer, on a eu qu'une seule, je crois une seule fois on a gagné.
C'est la première victoire.
C'est la première victoire. On a connu que des matchs nuls et des défaites. Donc pour le moment l'équipe ne sent pas comme ça. Et pour cette fois-ci, puisque les gens avaient même leur cœur dans leurs mains, comme on le dit, parce que hier, avec le premier but qui a été marqué très tôt,
oui.
Là, on crut que la manière dont les éperviers poussaient, on allait même donner plus de 5-0 au Soudan. Mais des maladresses, vous avez les centres qui passaient, et puis même comment on ratait, surtout le but maison. Faudo là-bas, qui a raté plusieurs occasions face au gardien, et qu'il faisait en Arabie Saoudite, il ne l'a pas fait ici, parce que face au gardien, lui, il allait et il savait comment dribbler le gardien et mettre dans les poteaux. La dernière balle qu'il a eue, c'est qu'il l'a mise sur le gardien. Donc, lui, c'était le jeune, c'est pas Naré, c'est l'autre, Karim Derman. Qui a centré et puis l'autre a marqué. Sinon, on allait faire sur. Et puis, quand il y a eu des changements, quand Karim Derman est sorti et qu'il y a eu des changements au niveau des choses, tout le monde a peur. Le stress là dont on parlait, tout le monde avait ce stress parce que à chaque fois, le Togo qui gagne, on a réagi, on a agi. Mais cette fois-ci, On a gagné pour la première fois. C'est comme ça, ça s'est passé avec la Mauritanie. Les matchs allés, où on menait 2-0, et la Mauritanie est venue égaliser les 2-2. Et c'est ce qui a fait que nous sommes actuellement là, ici, on est éliminé. Tout compte fait, c'est que le coach a dit que pour ce match, il allait allier un autre visage de ce sport des pays. Et c'est ce qui a été fait. On a vu qu'à l'avant, il a mis beaucoup de jeunes nouveaux qui ont fait ça. Baudet Abdou Sabo qui s'est bien comporté. Et à l'arrière, c'est seulement l'autre là qui était là, le capitaine des épervés qui était là, soutenu par les des nouveaux. Donc je pense que c'est une bonne chose. Si pour cette victoire, tout le monde dit que c'est bon, mais il faut attendre pour le prochain match. À ce regroupement de une semaine pour voir les conditions des joueurs, bien comment les joueurs vont se faire. Mais pas encore ça pour les épervés. Vous avez vu que hier, les gens n'étaient pas allés au terrain parce que on est déjà éliminé. Et également, compte tenu du fait que les gens ne s'intéressent plus par rapport au football.
Puisqu'il rapport y, a, y avait plus gens, d'enjeu.
Il n'y avait pas d'enjeu.
Non.
Il n'y avait pas d'enjeu par rapport aux échecs, aux multiples qu'on a au niveau du football. Les gens ne s'intéressent plus. Les gens ne sont plus motivés. Quand le Ngoumé Daré est arrivé, vous avez vu la motivation au niveau des supporters. Les supporters sont allés pour voir comment le Ngoumé Daré va refaire son équipe, va les épervier. Mais par la suite, avec les défaites que les épervier, puis finalement, on n'a pas d'enjeu. Si Mauritanie, le Togo avait fait un bon match, hier le stade allait être plein. Parce que le Togo n'a pas fait un bon match en Mauritanie. C'était nul, complètement nul. Le match le plus nul même de Ngoumé Daré en Mauritanie et en Ouadibou là qui a été joué.
Mais on ne se reconnaissait même pas dans le jeu alors de 16
épervés. On ne se reconnaissait pas dans le jeu de 16 épervés. On ne sait pas ce qui s'est passé.
Oui.
Et la Palme d'Or était revenue à l'autre là. Mon ami qui a fait 20 ans de carrière. Alexis Romao.
Voilà.
Très très chose. Non, c'est un vrai patriote. Donc vous avez vu le prix qu'on lui a décerné.
Tout à fait.
Tout le stade avait applaudi.
Merci. Sylvestre, oui, quand on a nommé Ngoumé Daré comme sélectionneur des éperviers, on se disait, mais oui, il faudrait qu'on le laisse, qu'on lui donne aussi les moyens nécessaires pour qu'on voit exactement ce qu'il fera. Mais apparemment, il n'a pas créé le miracle. Hein?
Malheureusement, parce que nous faisons partie de ceux qui avaient quand même suscité qu'enfin, il faudrait qu'on ait un Togolais à la tête de l'équipe nationale pour qu'on puisse véritablement juger la capacité et les nôtres à reconstruire cette équipe-là. Encore qu'en partant, le coach portugais, Paulo Duarte, mettait déjà quelque chose en place. Il y avait une certaine base qui se dessinait comme autant donc de Stéphane Keshi paix à son âme. Autant de Keshi, même si on vous réveille, vous êtes capable de donner les 11 de départ. Et on a vu également avec Duarte, quand il venait, il y avait certaines osmoses, certaines équipes qui commençaient à germer. Et avec Danré, nous sommes dit, bon, il a au moins une base, il pouvait au moins surfer sur ses acquis-là, construire son équipe, et puis on pourra redécoller et revivre les. C'est belle ambiance de 2006 jusqu'en 2008. Mais malheureusement, nous sommes un peu déchantés parce que c'est vrai que notre compatriote, il a sur le papier, il a quand même de gagner le terme nécessaire pour conduire cette équipe-là. Mais dans les faits, sur le terrain, la réalité des choses, pour chose, parce qu'avec Ngoumé Daré, il y a eu une équipe type. Chaque match avec son équipe, c'est là où ça cloche un peu. La dernière fois, j'ai vu, c'était sur le banc, au Fodo là-bas, il est bon. Kevin, il est très bon, il vient en sélection, il devient véritablement un décor. Il y avait le jeune là qui joue également en Égypte, qui a claqué deux buts quand on l'a confronté. Yao Anon, je crois. Anon. On pouvait également essayer ces jeunes-là. Bon, ça n'a pas pris. Vous savez, moi, j'ai arrêté depuis un moment d'aller au stade de Kéké. Je crois que mon dernier passage, c'était le match Togo-Libéria. Et presque à la dernière minute, vous savez ce qui s'est passé. On menait jusqu'à la dernière minute, juste une touche. Et puis, bon, voilà, et qu'on a exécuté, les notes regardaient comme ils étaient fixés au sol. Bon, voilà, et avec une tête, et puis le gardien aussi qui s'est envolé et qui va chercher le vent. Et après, bon, voilà, depuis ce jour-là, vous savez, tel que Gaziel a dit tout à l'heure, vous suivez donc l'équipe nationale, vous avez tellement de dépression, vous risquez donc de faire une crise d'AVC. Parce que avec le Togo, il faut, rien n'est sûr. Donc moi, j'ai arrêté parce que j'ai arrêté d'aller au stade. Je veux bien sûr tout cela à la télé. Mais parfois aussi à la télé, vous regardez, vous.
La télé, c'est plus grave.
Si vous ne vous maîtrisez pas, vous risquez donc de donner des coups de pied à l'écran. Donc finalement, je prends mon téléphone et à chaque fois j'interroge le fond pour savoir le score. Là, je crois que je suis en paix avec moi-même. Donc voilà, donc l'équipe ne nous rassure pas. Ne nous rassure pas. Est-ce qu'il faut déjà commencer à passer à l'après-denrée? C'est également une possibilité. Parce que j'ai l'impression que jusqu'à ça, on ne voit pas un début. C'est ça l'inquiétude.
Mais
c'est
oui,
avec
Darry,
on ne voit pas un début, c'est-à-dire quelque chose qui commence à germer. Non, on ne voit rien. C'est là où ça devient véritablement sinon inquiétant. Sinon inquiétant. Donc, voilà, on a raté une occasion depuis que les mondialistes. Regardez comment les morts nous ont mané la dernière fois. Une équipe totalement à la rue, des éperviers qui dans la surface de réparation, dans les 16 mètres, comme si, je sais pas. Avec tout cela, donc, vous croyez, on ne peut qu'avoir un dispositif parce que quand les gens sortent fatigués, bon, voilà, vous avez vu ce qui s'est passé en RDC, où le stade est pratiquement avec des chaises qui sont volatilisées et tout. Donc, heureusement qu'ils ont gagné, mais il n'y avait pas d'enjeu. On a gagné donc un Soudan. Eux, ils sont habitués à faire la guerre. C'est-à-dire qu'ils se cachent pour attendre donc l'ennemi. Et puis voilà, donc, bon, voilà, si on a gagné le Soudan, c'est pas un trophée maintenant. Il faut réfléchir sur le football
d'accord.
en général.
D'accord, il faut réfléchir sur le football en général.
Oui,
oui je sais, rapidement. Oui.
Sur votre questionnement, est-ce que M. Nimobe Daré pouvait faire des miracles? À mon avis, non. Parce qu'une équipe nationale, d'abord.
Est-ce que les conditions n'étaient pas réunies?
Non, je ne pense pas. Je ne passe pas les conditions dans quel sens. Et est-ce que les joueurs étaient au point, bien avant l'arrivée d'Aré, pour les aligner dans l'équipe nationale? Une équipe nationale, c'est un tout, mais qui est composé des meilleurs joueurs du moment. Est-ce que nous avons les meilleurs joueurs du moment au plan national et au plan international? Et sur cette réponse, je dis non. Au plan national, comment est-ce que le championnat se déroule? Je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, le classement définitif est fait et arrêté. Parce qu'il y a des plaintes de certaines équipes contre d'autres sur des matchs et que la commission spécialisée doit quand même trancher. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est fait. J'ai cru attendre dans un débat sportif la fois d'ailleurs où l'étoile filante qui posait des problèmes. Qu'on a allié le joueur et tout qu'on doit trancher. Si aujourd'hui c'est tranché.
C'est tranché.
Maintenant, comment se déroule le championnat de football au Togo? C'est également un autre questionnement auquel il faut trouver des réponses. Depuis qu'on nous a promis la solution de cette région à l'arrivée de M. Foïna Sigbé, ça fait 20 ans. Qu'est-ce qui est fait? Quelle politique sportive nous avons? Ça, je parle du plan national. Maintenant, à l'international, quand vous prenez des équipes ou des clubs, que ce soit au Sénégal, au Bénin, un peu partout, et aujourd'hui, il y a une stratégie qui est là. Les recruteurs viennent, détectent les talents. Et après, ces talents-là jouent au haut niveau. Combien de joueurs togolais jouent au niveau aujourd'hui pour au fil moment et revient dans la sélection nationale pour apporter un plus? Quand vous suivez peut-être le match entre le Sénégal et la RDC, et la RDC n'est pas une équipe facile à malmener, à manipuler. Et c'est cette équipe-là qui joue à domicile et qui très rapidement a marqué le premier but contre le Sénégal. Mais connaissant le statut de l'équipe sénégalaise, vous avez vu les Sané et autres là, les dispositifs mis, le changement de tactique, le jeu a changé. Et au finish, c'est le Sénégal qui a battu la RDC.
Et cette proche d'installation.
Ce qui, un travail a été fait en amont et que progressivement le travail qui a été fait aujourd'hui j'étais là. Donc Darrière est arrivé, Darrière ne peut pas faire de miracle. Je pense que Darrière, dans progressivement, il va essayer d'apporter touche. Dieu merci, si ça prend, alléluia. Si ça prend pas, on ne peut pas vous darer.
Mais la question de savoir jusqu'à quand on laissera
voilà, soit les voilà, gens. Je conclue par là.
Rapidement.
Le poisson pourrit pas la tête. Et le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Donc tant que la tête du pays est pourrie, je ne pense pas que les autres secteurs ont tellement de solutions. Il faut cesser sur le problème. Parce que si nous sommes dans un tour, les anciens joueurs pour la sélection sont là. Quelles sont les conditions qu'on leur réserve aujourd'hui? Et certains sont délaissés. Et aujourd'hui, comment le championnat se déroule? Et les joueurs du championnat du moment, ils sont à quel niveau? Est-ce qu'ils sont recrutés quelque part? Est-ce qu'ils jouent, ils s'entraînent? Pour peut-être apporter leur touche également à la sélection nationale. Si ça n'y est pas, je pense chercher la solution au niveau du sommet. Et finalement, on ne confinera pas
tout nul ne blâme d'arrêt. Je ne blâme pas d'arrêt. Oui, c'est vrai que même en 2005, la tête était pourrie. En 2005, même, nous avons quand même eu une ossature où il n'y avait pas aussi des stars. Il n'y avait à l'époque que Adebayor qui était à Arsenal et à Gassa qui à Metz. Si Romaro à l'époque était loin Cuiseau. Mais on a même su garder une certaine ossature et bon. Avec beaucoup de chance,
le championnat était autre chose.
Oui. Non, maintenant, je crois qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus de coups d'impact. Et il y a déjà un joueur, Nouradi, bon, qui refuse déjà de venir. Il a déjà fait une fois avec Daré, mais après, il refuse aujourd'hui de venir. Ça veut dire qu'il y a déjà un problème donc, de personnes qui s'opposent déjà. Voyez-vous? Donc, ce ne sont quand même pas des choses à pérenniser. Hein, lui, il a fait deux matchs, il a même marqué un très bon but, dans un pays, on était en déplacement. Mais aujourd'hui, on l'appelle jusqu'à Roma de venir. Mais dans son club, il continue à faire des merveilles. Voyez-vous, c'est pourquoi je dis que lorsque, déjà au niveau donc, du staff, on ne sait pas une certaine osmose avec Adebayor qui boude également les gens et tout ça. Oh, le monsieur, lui, on le connaît, et quel que soit donc, son comportement, il peut également donner quelques touches à la sélection nationale. Donc, c'est pourquoi j'aurais quand même misé un peu plus. Je suis patriote, je vous l'ai dit, hein, tout le monde le sait. Mais je vais peut-être miser un peu plus pour un sélectionneur étranger, pas du genre de Claude Leroy, c'est ce que le vieux sorcier a foutu le bordel ici. Mais avec un Duarte qui venait, je commençais à voir un peu quelque chose. Mais après, il est parti, et puis bon, on sombre de quoi.
Ouais, un petit. Parce que quand les gens s'en prennent maintenant à Daré, c'est parce que quand Daré est venu, quand il a signé, il dit qu'il va changer le visage du football togo et qui va qualifier le Togo pour ce CAN qui est en train de se dérouler. Et les gens ont mis leur confiance en lui pour dire que comme nous avons un entraîneur national, un entraîneur national togolais, au moins il connaît, et puis c'est un ancien joueur qui a fait le mondial 2006, qui a fait même les compétitions avec lui. Donc il connaît les problèmes du football togolais. Et lorsqu'il est arrivé, il a promis. Et c'est cette promesse-là qu'il a faite, qui a fait qu'aujourd'hui, les gens disent que voilà. Or, en principe, quand il est arrivé, comme Doité l'a dit, je vais reconstruire l'équipe. Doité a commencé par reconstruire l'équipe. Si il partait, le premier match qu'il devait jouer, si Nibombé prenait les joueurs, l'équipe fondée par Doité, on allait avancer. Et au fil des jours, au fil des matchs, il peut intégrer ces joueurs qu'il veut. Mais ça n'a pas été le cas. C'est pour cela que les gens, sinon on ne blâme pas d'arrêt. Maintenant, par rapport au championnat national, Tom est en train de dire que on est des amateurs. Hein. On fait un championnat jusqu'à présent. Parce qu'on a promis, la fédération, le comité exécutif a promis depuis 2 ou 3 ans comme ça, on devait commencer le professionnalisme. On ne l'a pas fait. C'est parce qu'il n'y a pas de professionnalisme au Togo qu'on ne retrouve pas les meilleurs à l'extérieur.
Mais jusqu'à quand les jeunes,
on est en train de former les jeunes. Il y a les écoles de formation qui sont là. La dernière fois, la ministre des Sports est allée, ils ont organisé un truc pour les jeunes, la détection des jeunes talents. Je pense que c'est par là que ça peut commencer avec les écoles de formation où on peut trouver, c'est jusqu'à quand on va trouver. Vous avez vu Karim Derman, il est sorti d'une école de formation ici et actuellement il est à Lorient. Donc c'est ça qu'il faut commencer. C'est par là qu'il faut commencer.
Mais il y a des Bobé qui avait promis quelque chose comme ça. Je me souviens.
Oui, mais ça,
c'était les talents et justement la base.
Et c'est pour ça que je salue l'initiative de la radio Sport FM qui aussi organise ces choses pour la détection des talents. Mmh. Et ça se fait aujourd'hui.
D'accord.
Quand
et les pouvoirs publics où?
Le pouvoir public. On a la fédération, là, c'est la fédération.
Oui, justement, la fédération fait partie du pouvoir public. Mmh. Oui, Abbas, on va quitter le sujet, on s'intéresse à un autre sujet, mais cette fois-ci, parlons de l'éducation. Le sport, la santé, l'éducation, c'est pratiquement dans les mêmes enseignes. Et là, vous écrivez hein, ce matin, éducation des filles et autonomisation des femmes, un ambitieux projet régional SWEDS, plus lancé à Djémeni dans le Haro. C'est bien ça?
Oui, c'est à Djémeni dans le Haro que ça a été lancé hier, puisque ça doit, la distribution des kits scolaires devait concerner plus de 100 000 élèves filles des écoles publiques. Et c'est pour leur permettre d'avoir, et puis des enfants vulnérables, dont les parents ont des difficultés pour aussi accéder aux fournitures scolaires, pour payer les fournitures scolaires pour les enfants. Et comme vous le voyez, c'est que depuis quelque temps, on a mis en avant la scolarité des filles, surtout, puisque quand vous prenez avant, lorsque vous prenez, vous mettez 10 garçons et 10 filles à l'école primaire, au CP1, jusqu'en troisième, vous ne verrez que 2 ou 3 filles, alors que les garçons continuent. Donc, aujourd'hui, avec cette chose, il faudrait faciliter l'accès aux écoles, à ces filles-là, pour que ces femmes, ces filles soient plus autonomes. L'autonomisation des femmes, c'est ce projet. Ce projet, c'est, on a dit, c'est plus de 37,5 milliards. C'est avec les partenaires, puisque hier, il y avait l'UNPFIER qui était là, il y a la Banque mondiale, les partenaires qui accompagnent le Togo dans ce projet. Ce n'est pas un projet togolais, c'est un projet international, puisque c'est ça regroupe aussi les pays du Sahel. Donc ça a été lancé hier. Donc il y aura dans son 4 cantons du pays que ces cahiers-là vont être, ces kits-là vont être distribués pour permettre aux élèves filles d'avoir accès aux écoles, puisque demain, c'est eux l'avenir pour demain. Quand vous prenez l'éducation, maintenant vous avez vu que l'évolution de ces gratuités d'école a fait que aujourd'hui on a une inégalité, au moins un pourcentage égal, si ce n'est pas 50-50, c'est 48-50% des filles qui sont là dans des écoles. Et quand vous prenez les administrations également, il y a beaucoup de filles qui sont là. À l'université également, on retrouve beaucoup de filles, pas comme nous en notre temps, on comptait les filles dans nos amphis. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
D'accord.
On a l'impression que les filles même dépassent les hommes dans les amphis. Donc aujourd'hui, il faut féliciter ces initiatives et encourager également les partenaires à financer, à investir dans ces situations, et afin que au moins nous aurons aussi les filles, que les filles ne se sentent pas marginalisées dans ces situations de scolarité.
D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a des parents aussi qui ont des garçons. Aujourd'hui, on pourra se demander, mais c'est quoi leur mal s'ils ont des garçons? Parce que pour faire le développement, il faut le faire avec les deux genres.
Inclusion.
Oui, quand je vous disais que le gouvernement togolais a atteint ses limites, vous pensez que c'est faux? Vous savez, quand on a atteint ses limites, on n'a plus rien à prouver. C'est à ces gens-là, donc, de situation, c'est à ces gens-là d'image que vous verrez maintenant dans la République. Parce que les gens sont limités, ils n'ont plus du génie, ils ne peuvent plus rien apporter. On demande un gouvernement qui veut fonctionner comme une ONG. C'est-à-dire un gouvernement, je vois des ministres qui circulent et qui donnent une boîte de crêpes, de cahiers à des enfants, leurs habits, hein, des t-shirts qui descendent jusqu'au... Hein, jusqu'au mollet des tout petits et tout ça là, et après on va faire encore des publicités. Non, c'est pas ce qu'on demande à un gouvernement. On demande au gouvernement de bien gérer l'économie nationale, de permettre à ce que les parents aient des moyens pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Et non, un gouvernement qui circule donc de canton en canton pour donner une boîte de crêpes, de cahiers aux enfants avec 2 stylos. de Biké pour dire que non, qu'on développe, on développe l'école nationale. C'est cela, on demande à un gouvernement. Donc, vous voyez, donc, moi, je vous dis que le régime que nous avons, le régime a atteint son limite. C'est, il ne peut plus rien faire. Maintenant, c'est cela. Demain, vous verrez qu'ils vont dire, bon, on va acheter donc des hosties pour les églises. Ils iront distribuer des hosties aux églises. Et après, demain, on nous dira, oui, maintenant, on va confectionner des habits pour les pasteurs. Ils vont circuler donc d'église dans une église pour donner donc des vestes aux pasteurs. C'est ce qu'on va voir maintenant, parce qu'ils ont atteint leurs limites. Ils n'ont plus rien à proposer. Donc, c'est ça. Moi, j'ai vu ça, mais je me dis, bon, voilà quoi. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un niveau où, je me dis quoi, vous avez vu même, il y a quelques jours, j'ai vu même un élément sur une chaîne nationale où on parle donc de barbe des jeunes. Et c'est dans un journal donc de grande audience qu'on parle des choses comme ça. On a atteint, le régime a atteint ses limites. C'est fini.
Justin, et pourtant, dire que le gouvernement a atteint son limite, et pourtant, c'est un besoin qui est aujourd'hui sur le terrain. Quand on prend alors des élèves, et on a quand même de ces élèves qui sont des démunis et peut-être auront des difficultés à s'acheter les fournitures scolaires.
Gouverner, c'est prévoir. Et quels sont les actes qui sont posés en amont pour éviter que les élèves soient démunis ou que les parents soient en difficulté aujourd'hui? Je vous parlais d'entrée de cette émission, de difficultés que beaucoup de ménages ont à l'intérieur du pays. Je venais de rentrer hier soir. Je vous l'avais dit à l'entame de l'émission. Ça voudrait dire que rien n'a été fait. Et lorsqu'on est en face des problèmes ou des difficultés, on ne peut que poser des actes qui ont trait, c'est pas à l'objectif d'une ONG comme Sylvestre a le dit tout à l'heure. J'ai l'impression que le pouvoir actuel est en difficulté et qu'il n'a d'autre choix à faire que de poser des actes peut-être pour exister. Et non seulement ça, pour dire, voilà, dans les discours des émissaires ou ceux-là qui étaient là, les premiers responsables, les ministres et autres, et comme quoi c'est sous l'impulsion du PC que j'ai eu à attendre dans plusieurs journaux ce matin, radiophonique bien sûr ce matin. Et c'est un peu triste. C'est un peu triste. On pouvait quand même faire l'économie de tout ça. Et surtout que lorsque c'est un projet international, comme Abbas Aouya le dit tout à l'heure, qui ne concerne pas seulement le Togo. Mais si à l'international, on s'est rendu compte que certains pays africains sont en difficulté lorsqu'il était question maintenant d'aider la gente féminine à poursuivre ses études, à avoir les moyens requis pour continuer la formation ou l'enseignement, je pense qu'il faut quand même le soutenir. Mais au Togo particulièrement, je pense que nos dirigeants n'ont pas tellement posé des actes peut-être à nous aider à sortir d'affaires, à sortir de cette situation dans laquelle nous sommes, la pauvreté, et qui est tellement ambiante un peu partout sur l'ensemble du territoire. À Lomé ici, n'en parlons pas. Nous sommes à quelques jours de la rentrée, mais rentrer dans certaines maisons et interroger les gens. Les gens ont tellement du mal à joindre les deux bouts. À partir de ce moment-là, je ne sais pas par quel moyen, ils auront tout ce qu'il faut pour aider leurs enfants peut-être à faire une rentrée raisonnable.
Est-ce que c'est pas pour cela qu'il y a une distribution alors de ces kits?
Oui, ça semble du conseil rendu compte qu'on a mal fait. Vous avez posé une question très pertinente. Est-ce que ceux-là qui ont donné naissance aux garçons dans les ménages aujourd'hui qui sont en difficulté, quels torts eux ils ont commis et que c'est uniquement au niveau de la jeune fille qu'on en va pour dire voilà, on va les soutenir. Mais les garçons, ils ont quel tort? Attends, lorsqu'on parle de l'éducation, il y a un problème sérieux. Peut-être que vous allez ramener le débat là, on va le faire prochainement. Est-ce que vous avez une idée sur l'estimation des jeunes qui ont un bac qui vont rentrer à l'université de Lomé? Est-ce que le pouvoir public a anticipé sur ces étudiants-là qui vont rentrer, qui vont faire leur première année à l'université, les amphis? Et au niveau des lycées aujourd'hui qui sont construits partout, même de laboratoires, pour ceux-là qui vont faire la C ou la D? Mais c'est tout un problème. Lorsqu'on parle de l'éducation, Togo, ça ne s'arrête pas seulement à cette histoire-là de distribution de cahiers ou voilà, sous l'impulsion du chef du PC, quoi là, qu'on raconte à longueur de journée. Moi, je pense que nous avons un sérieux problème au niveau de la gouvernance togolaise et qu'il revient aux décideurs, aux premiers acteurs maintenant de tirer les conclusions.
D'accord. Sylvestre, on va mettre justement au débat avec... Non, on va quitter le sujet, Abbas. On quitte ce sujet, on s'intéresse à un autre sujet puisque notre temps avance. Sylvestre, on parle alors de ce sujet que vous avez écrit à la une de Val. Vous écrivez « Vague d'arrestation de jeunes, la société civile est très préoccupée » et avec des photos des jeunes, bien sûr, à la une à l'heure du journal.
Oui, c'est cela. C'est à cela qu'on assiste aujourd'hui dans la République. Des jeunes qui sont arrêtés, ça et là. La dernière, la dame qui est en haut, elle s'appelle Chimène Apévon. Nous avons appris qu'elle est jury de formation. Elle fait partie donc du site, le syndicat donc des élèves et enseignants. Des élèves, je crois, des étudiants. Il y a un site là, je crois, c'est la
17, non?
Synergie des élèves
étudiants du Togo.
Étudiants du Togo. Voilà le site. Donc, elle revenait du boulot et puis, bon, patatras, les gars sont jetés sur elle parce qu'elle aurait écrit quelque chose sur les réseaux sociaux. Voilà, donc la plupart de ces jeunes-là qui sont là à la une heure du journal aujourd'hui ont été arrêtés après le 6 juin parce que ils auraient donc protesté contre la récession donc du réseau internet et tout ça, et puis bon, on les prend un à un, on va les chercher. Il paraît qu'il y en a un même qui est en live sur TikTok, on est rentré en plein live, on l'a arrêté et tout ça. Bon, vous voyez, c'est pas sérieux quoi. Si quelqu'un a tenu des propos qui ne se vont pas peut-être dans les règles de là, mais a envoyé lui une convocation et tout. Donc, si la personne ne répond pas là, on pouvait peut-être justifier une force légitime pour aller prendre la personne et tout. Mais des jeunes, certains qui reviennent du boulot, d'autres qui sont à leur atelier et tout ça, et on les ramasse comme ça et puis on va mettre en prison. Et pour rien du tout. Affaire sur le jeune là, qui a écrit un poème sur Facebook. Qu'est-ce qu'un poème peut faire à une république? Et on va chercher ce jeune là. Parce qu'il a écrit juste un poème, on le prend, puis on le met. Parce qu'il a dit, fais ta part, et il faudrait que les gens prennent conscience et tout, on dit, trouve à l'ordre public et tout ça. Mais vous voyez, quand on prend des jeunes comme ça, alors que nous avons ce langage, l'habitude de dire, non, la jeunesse, c'est l'avenir donc de la nation, la jeunesse, c'est la relève de demain. Lorsqu'on met la relève de demain en prison, qui sont ceux qui viendront donc construire la nation? Si la relève de demain est déjà en prison, vous voyez que l'avenir donc du Togo s'écrit en pointillé. Voyez-vous? Donc, il faudrait pas qu'on aille à cela, qu'on jette les jambes, et même parfois sans procès. Le jeune qui a entamé une grève de la faim, Aziz Goma, on l'a arrêté depuis décembre 2018, et c'est en février 2025 qu'on le juge et qu'on le condamne à 10 ans de prison. Parce que il aurait eu des rapprochements avec des certains jeunes du PMP à l'époque et tout. Vous voyez, un jeune bien portant qui rentre en prison aujourd'hui, selon les informations, il est en fauteuil roulant. C'est-à-dire que l'avenir du jeune, c'est-à-dire qu'on a son avenir a totalement basculé.
Oui. Vous êtes revenu bien sûr sur sa grève de faim. Vous titrez même d'ailleurs 15e jour de grève de la faim. Aziz Goma écrit à fort et vous le citez. Je vous implore d'agir pendant qu'il est encore temps.
Vous savez pourquoi? Il est avec un jeune qu'on appelle Karou Wahim. Les deux devaient comparaître le jour où Aziz a été condamné. Lui n'a pas fait donc le déplacement parce que sa santé était déficiente. Ils sont revenus en cellule et nous avons appris que donc Karim, lui, est décédé le 7 février dernier en prison. Voilà, ça, le jeune est parti comme ça. Vous voyez un peu? Vous avez vu donc le foie qui s'est abattu donc dans ce studio-là. On a pris un jeune parce que on miroitait qu'il est et qu'il complétait des choses contre l'État, on le met en prison. Et là, il est décédé en prison. C'est ça, quoi.
Oui, pour ces arrestations, justement, des jeunes. Mais ce qui est surprenant aussi, c'est que nous ne voyons pas la réaction alors du procureur de la République. Au moins, si déjà après ces arrestations, le procureur de la République nous situe sur les faits, ce serait également intéressant.
Oui, c'est ce qu'on veut, mais le problème, quand on les arrête, pour combien de temps? Parce que quand on arrête quelqu'un pour quelque chose, c'est qu'on suit une instruction. Est-ce que les jeunes sont en instruction ou bien ils sont dans les commissariats où ils sont allés, on les a présentés directement au procureur? Si on les présente directement au procureur, c'est que le procureur doit agir. Il va faire un communiqué pour dire que voilà, ces jeunes qui sont arrêtés, voilà de quoi on les reproche. Et là, le procureur fait un complot pour situer les gens sur les faits qui leur sont reprochés.
Mais en la matière, c'est quoi la procédure normale?
Mais la procédure normale, c'est que quand on garde quelqu'un, on arrête quelqu'un, il est gardé au niveau de la gendarmerie du commissariat pendant 48 ou 72 heures. Et après les investigations au niveau de ces choses, on l'envoie, on le présente devant le procureur. Et c'est le procureur, après les explications qu'il a eues, que le procureur donne les accusations. Il vous donne les chefs d'accusation. Et dans un communiqué, on dit que voilà tels qui me sont présentés. Voilà, ils sont accusés pour ceci ou cela. Du moment jusqu'à présent, on n'entend pas le procureur, ce qui veut dire que ils sont toujours dans les conseils, dans la gendarmerie. Ils ne sont pas encore arrivés chez le procureur pour que celui-ci soit saisi des faits qui leur sont reprochés.
Et là aussi, les 48 heures sont passées.
Si les 48 heures sont passées, c'est pas bon. C'est 48 heures ou 72 heures. On ne peut pas dépasser dans un lieu de détention 48 heures ou 72 heures. Si ça dépasse, ce n'est pas normal. Ça viole la procédure judiciaire, ça viole tout. Donc le procureur devait s'en saisir. Aujourd'hui, on attend la suite. Qu'est-ce qu'il leur est reproché? D'accord. Comme tu l'as dit, c'est que le procureur, s'il est saisi de ses faits, il doit faire un communiqué pour situer la population par rapport à leur implication.
D'accord. Merci beaucoup, cher confrère. Oui, Justin, nous allons faire, oui. on va marquer la pause. On reviendra, vous allez réagir par après parce que notre temps est déjà avancé. Merci d'avoir compris cela. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75 et aussi sur notre numéro WhatsApp 90, 45, 78, 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 115 et aussi vous pouvez réagir en nous écrivant des messages sur le 90 45 78 57 et c'est sûr bien sûr ces deux numéros 90 86 35 35 91 36 63 115 que vous pouvez réagir sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Premier auditeur en ligne, allô?
Oui.
Allô, Pélé? Oui, bonjour Pélé, comment vous allez?
Oui, ça va.
D'accord, allez-y.
Bon, nous sommes à la veille de la rentrée. On vient d'apprendre qu'il y a des kits qui sont installés pour donner aux élèves. Nous, on croyait que c'est le gouvernement, mais on a appris que ce sont nos partenaires. À 65 ans d'indépendance, vous voyez encore? Je pense que, effectivement, c'est la limite du régime RPTI. C'est ça. Parce que vous venez de prévoir. Quand vous donnez à manger à un aveugle, il faut l'attendre à l'amener au buffet. Après avoir pourri la population, c'est le pouvoir. Sinon, effectivement, il faut aider la population à s'émerger. Il faut que les parents. Nous avons appris dans ce pays, il y a de cela 10 ans, 3 ans, que le président Faure avait prévu qu'il va donner des fournitures aux élèves. Mais au finish, on a dit que bon, après tout, on n'a pas vu 2 ans, 3 ans, après tout, on nous dit que bon, à qui il faut donner, à qui il ne faut pas donner. Mais si nous prenions aujourd'hui que ce sont les filles qui prennent cet avantage-là, c'est de bonne guerre. Et nous, on croyait que, bon, le président soit en train de suivre le pas de Patrice Talon, qui, au Bénin, 3 ans, il donnait le déjeuner 450 francs aux écolières et 600 francs aux collégiennes.
D'accord.
Je pense que là, c'était le bon sens. Le bon sens est la chose la mieux à partager.
Merci beaucoup, Pélé. Merci pour votre intervention. Bonjour, Pascal. Après l'interpellation d'une personne par la police ou la gendarmerie, c'est l'officier de police judiciaire, le policier ou le gendarme, qui lui notifie en premier les charges qui pèsent sur lui avant son déferment, devant le procureur. On n'attend pas le procureur pour le faire. C'est justement nos auditeurs qui nous envoient ce message pour nous situer surtout sur le fait. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, le plateau.
Oui, comment vous allez?
Bien.
Votre nom, c'est?
Kodjovi de Zangera.
Kodjovi de Zangera. Allez-y, monsieur Kodjovi.
Oui. J'aimerais intervenir un peu.
Oui, vous y êtes, allez-y.
Et concernant les kits scolaires, là, que l'État donne aux parents les moyens de subvenir aux besoins de leurs enfants. Je pense qu'il n'y a pas que 100 000 filles démunies, élèves filles démunies au Togo. Bon, concernant le football, depuis 20 ans, le niveau des éperviers dégringole. Et je me rappelle, hein, dans le temps, au temps de Kakbo Yaouvi à Kholou, et il y avait un match contre la Mauritanie. Le jour-là, le journaliste diffuseur pleurait de joie. Les Mauritaniens étaient obligés de tirer les joueurs togolais. Mais aujourd'hui, c'est la Mauritanie qui malmène le Togo. Vous voyez. Et quant à M. Nibombé Dario, voilà. Et il a fait de son mieux, mais je pense qu'il a aligné 9 matchs. Et il a eu le temps de mettre en place une certaine renaissance. Bon, c'est ce qui lui manque.
D'accord.
Et merci et bonne émission.
Merci beaucoup, M. Kodjovi, pour votre intervention. Bonjour, Canal FM. Le foot togolais n'est plus un sujet qui nous préoccupe plus, car notre football ne reflète que l'image du pays. Merci, c'est André qui nous écrit, un Togolais qui vit à Dakar. 90-86-35-35. Allô?
Allô, Canal FM.
Bonjour, M. Wiao.
Merci,
comment vous allez?
Ça va très bien.
Allez-y.
Hier, j'avais dit bonne chance aux éperviers, ils m'ont donné la joie. Je viens pour dire à Nibombé Daré qu'il n'a qu'à, c'est-à-dire, au de là-bas, franchement dit, c'est pas un attaquant à France. Ça, ça passe avec gardien, mes amis. Bon, celui qui va m'insulter, il peut m'insulter. Hein. Même moi, le travail que je fais, que moi-même, ça n'a qu'à être bon pour moi, là, je dois le faire. Parce qu'un attaquant ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que tu joues premièrement pour toi-même et tu joues pour ta famille. Et pour, tu joues pour ton équipe que tu as à l'extérieur. Mais vous ne venez pas pour jouer pour le peuple congolais. Vous jouez pour votre famille même. Vous allez mieux. Quand les Daré et les Tchangé jouent, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, Daré, toi, coach, quand quelqu'un, tu fais sortir quelqu'un qui joue mal, tu lui serres la main. Ça veut dire que tu l'encourages à faire plus que ça avant là. Quand un coach vers de Madrid, son coach, quand il te fait sortir du mal là, il te garde. Il faut que Daré soit, c'est-à-dire, régulé sur ses joueurs. Franchement dit, moi, ça m'a trop énervé. Sinon, Fodou là-bas, nul. Kevin Beke, nul. Merci beaucoup, Canal FM.
Merci, M. Wiao, pour votre intervention. Allô?
Oui, bonjour, Pascal.
Oui, Patrick, bonjour, comment vous allez?
Pas sa grâce chez vous.
Ça va aussi pas, la grâce de Dieu, c'est l'autre commandant.
Ouais, je salue même Ali.
D'accord, allez-y.
Je salue tes confrères aussi là-bas.
D'accord.
Je voudrais commencer par ce que j'avais dit entre temps sur votre antenne là concernant l'équipe nationale togolaise. En ce moment, vous avez reçu Aimé Lebon, Ekwe, qui est présenté à la HAC présentement. J'avais dit en ce moment, il était avec ça, je lui ai bien dit que. Entre-temps, je n'ai plus la date en tête, mais le Camerounais avait accordé une interview à Aimé Lebon. Le monsieur, je vais parler de Joseph Antoine Bell. Le monsieur a tout dit dans l'interview là. Tout ce qui mine, les problèmes qui minent l'équipe nationale, on dirait que c'est un Togolais. Alors que le gars, il a fait une analyse vraiment pas possible. J'ai demandé à Aimé Lebon le jour là que s'il a encore. Et ça dit l'audio là, de jouer pour que les Togolais puissent comprendre quelque chose dedans. C'est ça, moi, je voulais quoi. Ce qui se passe là, le monsieur avait tout dit. Il ne faut pas aller chercher loin. Ces joueurs-là, les éperviers-là, à mon avis, c'est ce qu'eux aussi font comme boulot, à part le foot, parce qu'ils sont payés par l'argent du Togo, ils sont payés par le gouvernement togolais. C'est ça, ils font comme nous aussi, le boulot que nous faisons, on nous paye la fin du mois, c'est ce qu'ils font aussi. Mais maintenant, si ce qu'ils font n'est pas bon, faut-il continuer par gober avec ces gens-là, alors qu'ils sont bien payés? Regardez la victoire d'hier, là, c'est des millions qui vont couler. Ce n'est pas que je les envie, mais ça fait un peu mal. Mais ça, c'est une victoire, tout le monde crie, oh, ils ont gagné, ils ont gagné. Est-ce que c'est ça? Ce n'est pas encore la fin, est-ce que nous sommes qualifiés? Mais c'est une victoire, ça s'arrête là. Mais derrière, là, qu'est-ce qui va se passer? Après le second match, encore défaite, on va où avec ça? Comme ça, en crescendo, on va aller comme ça. Ça fait un peu mal. Mais pourquoi ne pas associer à Adebayor dans cette affaire? Quoi qu'on dise là, quand vous reprochez au Lièvre là quelque chose, sachez qu'il court plus vite que vous, quoi. Au moins, ça. Il faut associer à Adebayor dans, malgré tout ce qu'il fait. Je suis sûr que le gars là peut convaincre les joueurs. Le gars là peut mettre son argent dans ça. Ça fait mal. Essayons ça aussi, voir. Oh, vraiment, juste d'accord. Bonne émission.
Merci, Patrick, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir dans l'émission Club de la Presse sur des sujets débattus, bien sûr, ici. 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour, madame, ici.
Bonjour. Patrick, ici, des sujets débattus. Il y a tellement de sujets. Bon, on enferme tout le monde. Le régime enferme tout le monde, injustement, parce que je crois que ils réclament le droit d'alternance, de démocratie, pour vivre bien, et puis on les enferme. Ceux qui nous font du mal, c'est eux qui enferment les victimes. Attends, comment on dit ça? Les victimes maintenant. Qui est violente et tout. Hein? Vous avez vu ça où? Vous faites des mandats non limites. Ça détourne à mort. Ça nous affame. Ça nous fracasse les grandes galeries. Ça nous fusille partout en désordre. Et non. Hein? Et maintenant, vous nous enfermez en plus. Vous avez vu ça où? Vous avez parlé de l'école. Dans une dictature militaire là, comme la nôtre, là, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'éducation. Les familles sont détruites. Les syndicats, les partis politiques, tout ça, là, rien n'existe, quoi. Les gens n'ont qu'à... Pourquoi ils nous font ça? Ils n'ont qu'à alterner, quoi. Trouver une formule la semaine prochaine. Moi, je prie le Saint-Sacrement tous les dimanches. De leur toucher le cœur pour qu'ils lâchent le pouvoir la semaine suivante. Et c'est ce qui se fait là. Et nous, on en partie parce qu'ils n'ont plus le pouvoir. Le pouvoir, ils ne l'ont plus. C'est bon, quoi.
D'accord, merci. Voilà. Merci, madame.
Ah oui, voilà.
Madame ici, merci. Merci pour votre intervention, puisque il y a justement notre temps est avancé. Et tout le monde qui nous fait signe, d'ailleurs, que vous êtes la dernière auditrice hein, pour le compte à l'heure de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez appelés pour vos diverses contributions. Je lis cette réaction hein, de cet auditeur qui nous a écrit sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57, parlant de l'arrestation tout à Zumit, alors des jeunes, fait que certains banalisent dans leur analyse. Et tout se passe sous le regard passif de la justice togolaise et qui doit être le dernier rempart contre l'arbitraire, donc contre les arrestations irrégulières et les détentions arbitraires et abusives. Malheureusement, elle se complaît dans la délivrance des mandats de dépôt qui envoient ces jeunes en prison, que ces magistrats qui sont des parents se mettent à la place alors des parents de ces jeunes. C'est dommage pour ce pays. C'est Madiba qui nous écrit depuis Adido Gombe. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission. Si est-ce que vous avez écouté les uns et les autres se prononcer sur l'actualité, réaction?
Nous, on a écouté. Ils ont donné également leur manière de voir, de percevoir les choses. Je crois que, comme Daesh l'a dit, hein, et aujourd'hui, les choses sont véritablement difficile pour le Togolais. Et donc il est important, quoi, cette fois-ci il est important qu'on qu'il faut alterner. Vous savez, il faut alterner. Nous sommes là et le Bénin hein, a déjà deux présidents en vie, le troisième va s'ajouter bientôt, et puis on regarde tout cela, et puis ça fait que nous sommes même devenus même des envieux hein, vis-à-vis donc de nos voisins de l'Est. Il faut changer. Il faut changer de paradigme, il faut changer les choses. Lorsque vous êtes là pendant des années, vous ne pouvez plus rien donner. Donc voilà. Je voulais peut-être finir par là pour nuancer un peu au niveau de ce que disait tout à l'heure le doyen Abbas à propos donc, du procureur. En fait, le procureur n'attend pas, donc les policiers ne doivent pas attendre donc, le procureur. Lorsque vous prenez l'officier de police ou l'officier de gendarmerie, lorsque vous arrêtez quelqu'un, vous devez d'abord lui notifier les charges.
Tout à fait.
Hein, vous devez lui notifier les charges qui pèsent
sur lui.
Hein, sur la personne, donc avant le déferment, donc devant le procureur. Ils n'attendent pas le procureur. Donc voilà ce que je voulais juste élucider sur ce point-là. Et donc bon appétit à tout le monde.
Merci beaucoup. Je pense quand même que cette nuance, il y a un auditeur, bien sûr, qui maîtrise bien les rouages de la justice, qui nous a justement signifié cela. J'ai lu le message. Oui, Abbas.
Okay. Ouais, j'aime pas dire parce que la question m'était interrogée pour savoir pourquoi le procureur c'était.
Tout à fait.
Il a dit que c'est après que la police ou la gendarmerie soit allée chez lui, qui va agir, réagir par rapport à un communiqué, à travers un communiqué.
Un communiqué.
J'aime pas dire que c'est le procureur qui fixe les charges, je n'ai jamais dit ça. Donc, c'est la procédure qui est là, la charge est fixée par la police. Mais lorsque le monsieur n'est pas présenté devant le procureur ne peut pas sortir un communiqué. J'ai répondu à une question qui m'avait été posée. Donc, je pense que par rapport à la gratuité les kits, les 100 000 kits qui sont distribués, c'est une bonne initiative à saluer puisque ce n'est pas la première initiative prise par le gouvernement pour aider et amener à l'augmentation des filles dans l'éducation scolaire. Donc maintenant, avec cette initiative, ça va amener aussi également les filles à avoir plus d'accès. On a parlé du fait qu'il y a aussi des familles qui ont des garçons, mais il y a la gratuité aussi des frais scolaires qui étaient là depuis quelques temps pour les élèves du cours primaire. Et surtout, la faveur a beaucoup accordé aussi aux filles. C'est pour avoir aussi l'égalité des chances pour les hommes que pour les femmes.
D'accord. Merci Abbas. Oui, Justin.
Oui, merci. Je ne me suis pas prononcé sur le sujet concernant ces arrestations dans un premier temps. Mais seulement, je fais observer que ce qui est annoncé, effectivement, lorsque la police judiciaire, la police ou la gendarmerie interpelle quelqu'un, c'est cette police judiciaire qui signifie à la personne interpellée que voilà, c'est la charge qui pèse sur vous et que vous avez l'intérêt à garder le silence jusqu'à ce que votre avocat se prenne, parce que tout ce que vous allez déclarer sera contre vous au moment opportun, c'est-à-dire lorsque vous serez déféré devant le procureur. Ça, c'est la procédure normale dans une république démocratique. Ce qui se passe dans le cas d'espèce, les gens sont interpellés de quelle façon ? Et lorsqu'on se jette sur vous, en pleine rue dans votre maison, des gens qui sont cagoulés, on vous met de cagoule, vous ne savez pas là où on vous amène, et c'est fait après des recherches, des avocats ou des organisations de défense des droits de l'homme qu'on vous retrouve quelque part. Mais s'il y a lieu peut-être que d'ouvrir une information judiciaire, c'est après que vous vous êtes présenté devant le procureur et que l'information judiciaire est ouverte et sous d'une bannière de déferment devant peut-être le juge d'instruction. C'est toute une procédure. C'est dans une république normale. Ici, dans le cas d'espèce, on se pose la question qui donne l'ordre à ce que les gens soient arrêtés de cette façon-là et détenus. Et parmi ces détenus politiques, il y a des gens qui meurent. C'est tout un problème, c'est toute une problématique qui est là. C'est ce qui amène à dire que dans un état de droit, il y a tout un respect de ce que nous pouvons amener à relever, notamment sur la question impliquée. Mais lorsque ce n'est pas respecté, et ça se passe de cette façon-là, là nous avons le droit d'utiliser le thème de la dictature. Nous sommes dans une dictature, qu'on se bluffe pas. Et ça m'amène peut-être à interroger peut-être le procureur de la République ou le procureur général sur le questionnement du crime concernant l'incendie des marchés du Togo. Mais on a dit que les enquêtes sont fermées depuis.
Merci.
Donc
merci,
c'est autant d'éléments qui amènent quand même à répéter. Bon, d'accord. Je finis par là.
Ouais, rapidement.
En interpellant les premiers responsables, les membres de la Commission nationale des droits de l'homme au Togo. C'est une institution qui est mise en place pour la protection des droits des citoyens. Mais tel que ça évolue, je pense que on sera dans le droit de dire que cette commission n'a pas sa raison d'être d'exister ou d'être caporalisé par le chef de l'État ou le président du Conseil, à qui aujourd'hui on passe par tous les moyens pour protéger son pouvoir.
D'accord. Merci beaucoup, Justin Anani, d'être passé dans cette émission. Nous sommes à la fin. Merci à vous. Je rappelle tout simplement que dans les kiosques ce matin, vous pouvez retrouver le journal Sika avec à sa une. Ce titre, bien sûr, la 5e République amène trop de problèmes. Et peut-on encore en sortir? Il y a le journal La Manchette, et Santé, Éducation, et le Libéral, et Gazelle Info, et le Mania Libéré aussi, hein, dans les kiosques ce matin. Et merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Sylvestre Béni, merci d'être passé dans cette émission. Vous êtes le directeur de publication du journal La Manchette. Abba Sissaka, merci d'être passé dans cette émission. Directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Merci à Justin Anani. Justin Anani, vous collaborez avec beaucoup de journaux et aussi des radios. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés aussi pour vos diverses contributions. Merci à vous. Merci à Thomas et Tech aussi de la TV qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouti a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain pour un autre numéro à l'heure de l'émission. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachsteiner, aussi nommée Sikavi, et une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribué au Togo par la SNB. Wachsteiner, la vie dorée.
Pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.